de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour porter un autre regard sur l'art et tenter de percer un peu du mystère qui émane d'une toile. Pourquoi et comment ça nous touche? Qu'est-ce qui s'offre à notre regard et à nos sens quand on est face à un chef-d'œuvre? Comment la science, en nous faisant virtuellement rentrer dans le tableau, peut-elle éclairer à la fois la perception que nous en avons, mais aussi les intuitions et le travail des artistes eux-mêmes? Voilà ce que nous allons découvrir avec nos invités, le sociologue de l'art Mathias Blanc, coordinateur des projets Visual Tech et de l'application Iconicat, et le journaliste scientifique Loïc Mangin, auteur de Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer et la science, aux éditions Belin, autour de la question « Quelle science de l'art ?» Bienvenue.
Ce qui est partagé par l'artiste et par le scientifique, c'est vraiment une attitude de découverte, d'une curiosité pour les phénomènes et surtout d'essayer d'aller voir au-delà de ce qui est observable, au-delà de ce que nous connaissons. Là, je pense que bien avant l'expérimentation, il y a une sorte de disponibilité qui est commune. Je trouve qu'il y a un peu cette idée d'écoute flottante, ou de disponibilité sensorielle et intellectuelle.
Bonjour Mathias Blanc.
Bonjour.
Bonjour Loïc Mangin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour nous éclairer sur les liens tissés entre art et science dans tous les domaines aujourd'hui. On vient d'entendre la théoricienne de l'art Anne-Marie Duguay sur les points communs entre ces deux démarches, celle du scientifique et celle de l'artiste, des passerelles, des dialogues se créent de plus en plus entre les deux et au bénéfice des deux disciplines, mais aussi des amateurs que nous sommes. Mathias Blanc, vous êtes chercheur au CNRS, sociologue de l'art et des cultures visuelles, des sciences de l'image au sein de l'Institut de recherche historique du Septentrion à Lille. Vous vous intéressez à la manière dont on perçoit les images. C'est vous qui coordonnez le projet de recherche Visual Tech, projet de recherche européen, multidimensionnel, pour lequel vous avez mis au point une bibliothèque d'outils numériques et de logiciels qui permettent quoi? De comprendre, voire même de toucher du doigt ce qu'on regarde, ce qu'on perçoit et ce qui nous touche dans un chef-d'œuvre.
Alors l'idée, c'était de permettre à tout un chacun en fait, de montrer au départ ce qu'il voit, ce qui l'attire, ce qui le marque dans une image et par extension dans les œuvres. Et donc l'idée, c'était pour quelqu'un qui travaille comme moi sur la réception des œuvres par des publics, ne pas me cantonner au verbe, donc simplement ne pas demander aux gens de me dire ce qu'ils voyaient, mais se rapprocher de leur expérience visuelle, qui n'est pas de l'ordre du mot, mais qui est de l'ordre de la perception, qui fait appel à d'autres mécanismes, d'autres schémas, et donc nous cherchions à nous rapprocher de cette expérience visuelle.
Et
la meilleure manière
alors,
de faire, oui. C'était de leur demander de nous montrer ce qu'ils estimaient pertinent de voir, ce qui attirait leur regard, ce qui les marquait.
Donc montrer avec les doigts ce qu'ils voyaient avec leurs yeux, hein, c'est
voilà,
ça.
On leur demande de nous montrer avec les doigts, donc sans parler au départ. On se rend compte très rapidement que les gens, après avoir désigné les choses, vont passer à la verbalisation. Mais il y a ce premier moment qui est conservé où le spectateur reste vraiment dans la visualisation des choses. Alors, c'est un acte déclaratif. Nous ne sommes pas dans l'ordre de l'inconscient ou du préconscient, puisque nous demandons aux gens de nous désigner ce qu'ils voient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la signification qu'ils attribuent à ce qu'ils voient et d'identifier les différentes formes de signification et les différents types de signification en fonction des publics. Si vous êtes un enfant, si vous êtes une jeune fille, un jeune garçon, si vous êtes en couple, si vous êtes à l'école...
On ne voit pas la même chose, on ne s'arrête pas sur la même chose.
On ne s'arrête pas sur la même chose. Et donc, c'est identifier ces regards-là.
L'application Iconicat que vous avez créée a d'ailleurs été testée avec succès, notamment par les visiteurs de l'exposition Le Mystère Le Nain au Louvre-Lens, on va y venir. Quand la science éclaire l'art et quand l'art éclaire la science. Loïc Mangin, vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine Pour la Science, où vous tenez la rubrique Art et Science. Le recueil de vos chroniques vient d'être publié avec de magnifiques illustrations par les éditions Belin, sous le titre Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer et la science. Et j'ai envie de dire que vous, c'est un petit peu, pas la démarche inverse, mais c'est par la science que vous nous faites entrer dans le tableau des toiles de maître à l'art contemporain. Vous éclairez ces chefs-d'œuvre avec votre œil de scientifique pour débusquer quoi? La science qui se cache à l'intérieur?
C'est un peu ça, oui. C'est voilà, partir de tableaux qui sont pour certains très connus, c'est ouvrir une petite fenêtre qui est plus ou moins consciemment installé là par l'artiste, on pourra y revenir plus tard. Et donc c'est ouvrir une petite fenêtre pour raconter une histoire de science qui vient compléter le regard, par exemple celui qu'on peut avoir via Iconicat, mais c'est pour augmenter la perception, j'aurais tendance à dire, pour rendre la perception du tableau la plus complète possible, et puis raconter une petite histoire de science.
Histoire de science que les artistes eux-mêmes n'ont pas toujours perçu, parfois oui, parfois non, c'est
exactement,
ça. Hein.
Voilà.
Autour de la question, quelle science de l'art et quelle science dans l'art, et si tout était d'abord une question de regard, comme nous le rappelait ici même Masha Makeyev, metteuse en scène, décoratrice et directrice du Théâtre de la Criée à Marseille.
Oui, moi ce qui m'intéresse c'est le regard. Au fond, il n'y a pas d'art sans regard, sans regardeur. Et quelquefois la science, je me demande si elle n'aurait pas besoin d'un peu plus d'être regardée.
À voir donc et à regarder à la radio, c'est pas vraiment évident. Mais commençons par regarder autrement, Loïc Mangin, avec un œil mathématique, un tableau assez emblématique de Salvador Dali, Corpus Hypercubus, le Christ en croix. Sauf que la croix, elle nous plonge. Enfin, le Christ, il est carrément dans la quatrième dimension.
C'est ça. La croix n'est pas du tout réglementaire si on se réfère au crucifix qu'on peut trouver dans toutes les églises de France et d'ailleurs. Donc, effectivement, on a l'impression d'un empilement de cubes, un empilement qu'un enfant aurait pu faire dans sa chambre avec des jouets. Et donc, il y a 8 cubes. Et c'est un objet, en fait, en 3 dimensions qui est l'équivalent d'un objet en 4 dimensions.
Donc, c'est-à-dire que notre œil le perçoit en 4 dimensions?
Non, c'est un objet en 3 dimensions, qui est projeté sur la toile, donc qui est en 2 dimensions, mais cet assemblage de cubes renvoie un objet en 4 dimensions. C'est ce qu'on appelle un patron. Tous les enfants ont fait ça. Pour fabriquer un dé, on dessine six petits, une sorte de croix, pour le coup, qu'on va découper, qu'ensuite on va plier, scotcher, on va retrouver un dé. Donc on part d'une forme en 2 dimensions, qu'on replie pour obtenir un objet en 3 dimensions. Donc la forme initiale est ce qu'on appelle un patron. Et donc la croix qu'a représenté Dali, c'est un patron d'un cube en 4 dimensions, ce qu'on appelle un hypercube, en fait. Donc, d'où le titre de la toile, Corpus Hypercubus. Corpus renvoie à Corpus Christi, évidemment, et Hypercubus renvoie à Hypercube, ce qui est représenté, tout simplement.
Dali était là, il savait ce qu'il faisait, Dali, quand il faisait ça. La preuve, c'est qu'il l'a nommé Corpus Hypercubus.
Voilà, on a du mal à imaginer le fruit d'un hasard. Par ailleurs, on sait que Salvador Dali était très féru de science. Dans différentes toiles, dans certaines, il a peint l'acide des oxyribonucléiques, l'ADN. Dans d'autres, il s'intéresse à la théorie atomique, il peint. Donc c'était ce qui naissait à son époque, tout ce qui était recherche sur le nucléaire. Ça, il était contemporain de ses premiers travaux et donc il l'a représenté sur ses toiles. Il va même très très loin, donc sans rentrer dans les détails, il a aussi rendu compte de travaux de René Thom et de la théorie des catastrophes sur une toile. Et donc là, on passe complètement à côté si on ne se penche pas sur l'aspect mathématique. Et non, c'est la même chose pour Hypercubus.
Il y a peut-être l'émotion qui est là, mais on passe à côté de la science qui est dans cette œuvre ou des mathématiques qui sont
voilà,
dans cette œuvre.
Pour employer un grand mot, pour l'exégèse, il faut un peu de science, sinon l'émotion, c'est déjà énorme, et c'est même pratiquement l'essentiel. On peut rejoindre ce que disait Masha Makeyev. Mais il y a un versant de l'œuvre
qui nous manque, sans le regard du scientifique. Alors Mathias Blanc, avec votre application Iconicat, je ne crois pas que vous ayez encore testé le regard des spectateurs sur cette œuvre-là de Dali.
Non, pas encore, non.
Mais vous l'avez fait donc au Louvre-Lens, sur les tableaux des frères Lenain, dans l'exposition Le Mystère Lenain. Alors comment ça marche déjà cette application Iconicat, c'est ça?
Iconicat, pour Iconic Analysis Toolkit. Voilà pour le petit mot, qui fait référence en fait à une approche qui avait été développée par un historien de l'art allemand, Maxime Dahl, qui parlait d'iconique. Et en fait, je me suis appuyé au départ sur ces travaux pour développer mon approche. Alors concrètement, les visiteurs sont face aux œuvres, ils disposent d'une tablette et ils peuvent simplement annoter par le tracé, c'est-à-dire que montrer en traçant sur l'image qui est reproduite donc sur la tablette ce qui attire le regard, ce qui les marque.
Ils l'entourent avec le doigt,
ils font des traits. Alors en fonction du savoir pratique, en fonction de votre éducation artistique, vous allez faire différentes formes. Vous allez organiser différemment également vos tracés. Donc ça aussi, on arrive à identifier en fonction...
Par exemple, je sais que vous avez... Il y a un tableau des frères Lenain qui s'appelle Famille de paysans. Vous allez nous le décrire. Qu'est-ce qui vous a permis d'apprendre à la fois sur le tableau, sur ceux qui le regardent, cette application Iconicat.
On s'est rendu compte d'une part que, en fonction de la configuration sociale, donc avec qui vous visitiez, les visiteurs organisaient leur regard différemment. Donc face à cette œuvre-là, alors les frères Lenain sont très connus pour avoir été les premiers en France à avoir peint ce qu'on appelle des scènes paysannes. Donc ce sont des scènes de la vie quotidienne qui représentent des paysans dans leur intérieur, voire dans leur extérieur. Mais là, en l'occurrence, je pense à une œuvre qui s'intitule « Famille de paysans », où nous avons 8 personnes qui sont dans un intérieur, avec à l'arrière-plan une cheminée, qui sont assis autour d'une table. Et puis, vous avez donc une dame plus âgée apparemment que les autres, qui tient un verre de vin, et un homme qui est sur le point de découper une miche de pain. Et cette œuvre-ci, en fait, est considérée par beaucoup d'experts comme une œuvre qui reprend les codes de la peinture religieuse.
Transposée aux paysans.
Transposée dans un univers de la vie quotidienne paysan, donc du XVIIe siècle. Et il se trouve que c'est une interprétation, c'est une hypothèse qui marque depuis le milieu du XIXe siècle la réception de ces œuvres-là, mais qui interrogeait déjà les commissaires de l'exposition Lenain, Nicolas Milovanovic et Luc Pirala, en 2017, où ils se posaient la question de savoir si vraiment cette hypothèse, qui est certes très très intéressante, ne pouvait pas être contrebalancée par une autre, à savoir que ces peintres-là évoluait à une période où le marché de l'art est naissant, et il peignait certainement aussi des motifs qu'il savait intéresser un large public. Et du coup, l'idée que c'est avant tout de la peinture religieuse qui se rejoue dans la scène paysanne n'était pas pour eux l'élément le plus important. Et on s'est rendu compte, alors bien entendu avec Iconicat et des visiteurs...
Avec le regard des visiteurs.
Du 21e siècle,
oui,
bien
oui.
entendu.
Je ne vais pas sur vous un dire, autre regard voilà, sur ces peintures.
Je ne vais pas vous dire que c'est ce regard-là qui prévalait
au 17e. En tout cas, qui n'était pas dans cette idée que les frères Lenain étaient les premiers à peindre des scènes paysannes.
Pas du tout. C'est un public qui n'est pas au courant de ces hypothèses-là, de ces interprétations-là. Et on s'est rendu compte que ces publics-là regardaient les scènes paysannes d'une certaine manière, en parcourant soit en spirale, soit en s'intéressant sur certains détails bien particuliers, ils parcouraient l'œuvre d'une certaine manière. Et lorsqu'ils étaient face aux peintures religieuses, ils ne parcouraient pas les peintures religieuses en s'intéressant, par exemple, au motif du Christ ou aux pèlerins, si je pense aux pèlerins d'Emmaüs, mais ils allaient regarder ces œuvres religieuses de la même manière qu'ils se saisissent des scènes paysannes. Et du coup, là, on se dit, mais finalement, après tout, est-ce que nous ne sommes pas là face à des œuvres qui ont été peintes par des peintres, certes, du XVIIe siècle, mais qui avaient reconnu que des motifs, une manière d'organiser, de composer la toile était vendeuse et ont décidé de les transposer dans d'autres registres comme la peinture religieuse.
Malin les frères Lenain, j'ai envie de dire. Et puis surtout, ça déconstruit un peu une forme d'histoire de l'art un peu figée, disons. C'est ça quand même que ça déconstruit, ce regard de spectateur amateur lambda avec une tablette dans la main.
Tout à fait. C'est-à-dire que ces regards-là qu'on réussit donc, par ce biais-là à identifier permettent également aux experts de réinterroger leur propre savoir sur ses propres œuvres. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment un dialogue, et quand on parle de science participative, ça prend un sens, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, même un regard a priori extérieur, profane, peut quand même fournir des éléments qui permettent aux chercheurs, à l'expert, de prendre un peu de recul et d'objectiver peut-être davantage aussi son savoir.
On continue, nous aussi, de nous interroger autour de la question, quelle science de l'art entre... Oui, vous aviez une question,
Loïc
Mangin. Alors posez votre question et puis après on va écouter.
Merci de m'y autoriser. Je me demandais jusqu'où, avec cette application, on pouvait identifier des intentions de l'artiste de guider le regard du spectateur. J'ai en souvenir un tableau de Rembrandt qui avait été un autoportrait où, avec les flous et les zones très nettes, on arrivait à dire qu'il avait fait en sorte de guider le regard du spectateur jusqu'à un de ses œils, je crois. Et donc je me demandais si avec cette application Iconicat, on pouvait déceler des intentions de l'artiste.
Alors on peut émettre des hypothèses sur les intentions de l'artiste, mais ce qu'on arrive surtout à déceler, c'est différents types de regard et d'orientation du regard. Et on se rend compte qu'on a beau être tous très différents, on a des différentes manières très particulière de regarder. On arrive, par exemple, par rapport aux frères Lenain, on a identifié 5 modalités de lecture face à différentes œuvres.
C'est aussi différent qu'on soit tous, on a tous un peu la même manière de regarder une œuvre.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on retrouve des éléments communs.
Il y a une typologie.
Il y a une typologie qu'on peut... Voilà. Et peut-être que cette typologie, en la travaillant davantage, permettrait d'aller dans le sens, effectivement, de l'intentionnalité que l'on estime être celle du peintre.
De remonter jusqu'à l'artiste.
De remonter, oui. C'est une possibilité. Maintenant, personnellement, je ne m'aventurerai pas à aller jusque-là pour l'instant.
Entre art et science, allez, on continue de s'interroger sur les mystères de la création avec le groupe franco-malien Donso sur RFI. On écoute Dali, autrement dit en bambara, création. Avec Donso Ngoni, création trans électro avec le groupe franco-malien Donso sur RFI autour de la question quelle science de l'art. Nous continuons de découvrir pourquoi et comment la science éclaire autrement non seulement les œuvres mais aussi le regard que nous portons sur ces œuvres en compagnie du sociologue Mathias Blanc, chercheur en sciences de l'image et du journaliste scientifique Loïc Mangin. Je vous propose tout de suite, Mathias et Loïc, un arrêt sur l'image de la Sainte-Anne, célèbre tableau de Léonard de Vinci, décrite in situ par la neurophysiologiste Zoé Capula, directrice de recherche au CNRS, qui, comme vous, Mathias, s'intéresse à la manière dont notre œil se déplace devant une toile, comment on regarde un tableau, en l'occurrence la Sainte-Anne de Léonard de Vinci.
C'est un tableau magnifique, en fait, qui est construit autour du regard. On remarque tout d'abord cette diagonale avec les regards d'Anne, de Marie, regardant Jésus, les petits agneaux. Il y a un jeu du regard réciproque entre tous ces personnages. Et sans doute, le regard de l'observateur, il est immédiatement piégé dans cette diagonale, ce va-et-vient des regards, les regards dans les regards. On remarque aussi dans ce tableau extraordinaire cette composition en plein centre et aussi cette dynamique, la posture de la Vierge Marie qui est en plein déséquilibre en essayant d'attraper Jésus. Et donc il y a des mouvements. Si on met des capteurs physiologiques pour enregistrer les regards du spectateur, on verra bien une dynamique qui se dégage de l'observateur à la fois sur son regard et à la fois sur son corps. Qui, en termes d'immersion presque, le corps va bouger éventuellement dans le même sens que ces mouvements induits par la peinture. Donc c'est une œuvre vivante.
Une œuvre vivante que chaque observateur, au fond, fait un peu revivre à sa manière. C'est aussi ça qui vous intéresse, Mathias Blanc, sur quoi vous avez travaillé en allant, j'ai envie de dire, c'est assez complémentaire avec le travail de Zoé Capula, en allant quand même un peu plus loin que des simples capteurs sur les yeux des observateurs, c'est ça ?
Alors, je ne dirais pas qu'on va forcément beaucoup plus loin, mais c'est simplement que c'est complémentaire. C'est complémentaire parce que les techniques qu'on appelle d'eye tracking, où en fait on va capter le mouvement oculaire, donc le mouvement de l'œil, et mettre le mouvement de l'œil en correspondance avec le champ de vision, sont extrêmement intéressantes, mais posent aussi un certain nombre de questions. Pour ma part, j'étais régulièrement face, d'une part, au constat que c'était très très dur à proposer à un maximum de visiteurs. Et d'autre part...
Oui, ça demande vraiment un équipement.
C'est ça, ça demande quand même un équipement. Alors que proposer aux personnes d'annoter graphiquement, c'est beaucoup plus simple à déployer. Et deuxièmement, on a tous fait l'expérience de pouvoir regarder un endroit et penser à autre chose. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment...
Ça ne dit pas toujours le...
Voilà, c'est-à-dire que le mouvement de la pupille ne fournit pas toutes les informations qui permettent de comprendre le sens que l'on attribue à ce que l'on voit. Et je vais vous donner un exemple avec Famille de paysans. On s'est rendu compte que...
Donc ce tableau,
des frères Lenain, donc du XVIIe siècle, vous avez des personnages qui regardent, leur regard est orienté vers le spectateur, le regardeur, et ils vous fixent. Ce sont des regards qui sont très très profonds et on avait l'impression en regardant donc ce qui avait été fourni par les capteurs oculométriques que finalement ces regards-là n'attiraient pas, ne focalisaient pas l'attention des visiteurs. Pourquoi ? Parce que les relevés en fait contournent ces regards frontaux des personnages. Alors que lorsqu'on leur demande qu'est-ce qui attire en premier votre regard, la première chose qu'ils mettent en avant, ce sont bien ces regards frontaux.
On les voit tout de suite, mais on ne soutient pas
ce regard-là. C'est-à-dire qu'on...
Il est presque trop fort.
Il est trop fort. Ouais. Mmh. Et ça pourrait expliquer notamment la gravité qui est ressentie par les visiteurs face à ces œuvres-là. Donc là, on a ce qui est intéressant, c'est de combiner les deux. C'est d'avoir à la fois ce que nous donne l'oculométrie et puis ce que nous donne Iconi 4. C'est qu'on aurait une stratégie d'évitement qui viendrait... qui serait ainsi constaté et qui permettrait de comprendre pourquoi dans certains cas effectivement on ne regarde pas a priori quelque chose alors qu'on lui attribue un sens particulièrement fort.
Ce qui rejoint aussi Loïc Mangin la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement l'artiste lui-même jusqu'où est-ce que il décide et il sait dans quel sens ira le regard du spectateur. Est-ce que en travaillant scientifiquement, en rentrant dans les tableaux de manière scientifique, on arrive à comprendre un peu mieux l'artiste, ce qu'il a voulu faire en l'occurrence Léonard de Vinci autour de tous ses regards.
Léonard de Vinci, pour le coup, c'est vraiment l'archétype de la passerelle art et science. En plus, on va fêter les 500 ans de sa mort l'année prochaine, donc il est vraiment à mettre en avant. Léonard de Vinci, c'est vraiment un cas particulier, parce que je crois qu'il a peint très peu de tableaux, genre une douzaine, quelque chose comme ça. Et en revanche, il a beaucoup fait de travaux d'ingénierie, de recherche scientifique, et il concentrait tous ses résultats dans ses tableaux. Par exemple, quand il fait un arbre, cet arbre, il est au plus proche de la réalité, parce qu'il s'est vraiment penché sur l'anatomie d'un arbre, le diamètre des branches, etc. etc. Et aujourd'hui, quand on s'intéresse vraiment à l'anatomie d'un arbre, on se rend compte qu'il avait tout à fait raison, il avait bien compris comment ça marchait. Que ce soit pareil sur un drapé, par exemple, quand mathématiquement aujourd'hui, et j'en parle aussi dans mon livre, on s'intéresse aux formes que prennent un drap ou un tissu suspendu, Léonard de Vinci, il avait aussi compris ça, de façon intuitive, parce qu'il n'avait pas forcément...
Donc son tableau, il est beau, il nous émeut, il est absolument juste scientifiquement,
rigoureux, hein. Voilà, quoi. Et donc, dans Sainte-Anne, c'est comme ça, dans la Mona Lisa, évidemment, c'est aussi comme ça. Voilà, chacun de ces tableaux est un concentré de science, en fait. Science de la nature, par exemple. Il s'est aussi beaucoup intéressé aux turbulences d'une rivière, par exemple. Et donc, on retrouve ça dans ces tableaux.
On peut faire de la science en regardant un tableau de Léonard de Vinci. Enfin, on peut apprendre des choses véritablement mathématiques, scientifiques.
Au moins, on peut se rendre compte que lui, de la science, il en a fait et que ça lui a servi à faire ses chefs-d'œuvre, quoi.
De l'intérêt, hein, des passerelles entre science et art. De l'intérêt aussi de faire, comment dire, travailler des spectateurs d'exposition. Si l'on revient à cette exposition sur les frères Lenain au Louvre-Lens, où vous aviez mis des tablettes entre les mains des spectateurs, les spectateurs, ils vous ont appris d'autres choses sur les tableaux que vous ne saviez pas ou que les experts de l'art ne savaient pas.
Oui, c'est ça. Ils nous ont permis d'émettre de nouvelles hypothèses. On a par exemple une œuvre qui s'intitule La Réunion musicale, où vous avez, c'est une miniature, donc qui fait 40 cm sur 30 à peu près, dans laquelle vous avez 12 personnages qui sont représentés autour d'une table. Donc vous avez 4 personnages autour d'une table et puis vous en avez donc 8 autres qui sont debout autour. Et cette œuvre est considérée donc comme étant une représentation d'une réunion musicale, ce qui correspondrait au XVIIe siècle à une pratique de divertissement qui avait cours, c'est le développement des airs de cour. Donc vous avez un musicien assis, et puis deux personnages au premier plan qui tiennent quelque chose dans la main et qui pourraient très bien être des chanteurs, avec tout autour un public. Au XIXe siècle, le conservateur qui a intitulé l'œuvre, puisque les maîtres, les Lenins n'avaient aucune trace du titre qu'ils donnaient à leurs œuvres, ils n'avaient peut-être pas besoin de donner de titre du tout.
Réunion musicale.
Réunion musicale, voilà. Et c'est un titre en fait qui ne parle pas du tout aux visiteurs. Les visiteurs ne comprennent pas pourquoi.
Quand ils voient ce tableau, ils ne pensent pas à une réunion musicale.
Pourquoi c'est une réunion musicale ? On voit juste un musicien avec une sitar sur la gauche, mais ce ne semble pas être le sujet principal de l'œuvre. Et on s'est rendu compte que pour les visiteurs, on avait une explication en termes de scène de noces, de réunion de fiançailles, d'échange de vœux, qui était mise en avant. Elle était mise en avant par le tracé, c'est-à-dire qu'il mettait d'abord l'accent sur la jeune femme qui est au premier plan, ensuite le jeune homme, enfin, qui paraît plus jeune que les autres personnages, sur sa droite, avec une cape rouge. Puis il s'attardait sur un personnage au second plan qui serait le père de la fiancée, et puis le musicien qui viendrait agrémenter la scène.
Est-ce que c'est les spectateurs qui se racontaient une histoire, ou est-ce que c'est peut-être la réalité du tableau ?
Alors, il se trouve que finalement, nous n'en savons rien. Donc cette manière de concevoir le tableau qui avait été mise en avant par les visiteurs, d'une part elle se tient très bien, mais il se trouve même que ça se trouve historiquement, elle est tout à fait plausible. Il se peut très bien que cette œuvre avait été produite pour représenter une scène de noces. Finalement, nous n'avons aucune trace.
Donc des amateurs, des simples profanes qui vont dans un musée aujourd'hui peuvent, au fond, peut-être rectifier l'étiquette appliquée par un historien de l'art il y a un siècle.
En tout cas, ils peuvent permettre de réinterroger, de mettre en avant différentes interprétations qui sont tout aussi pertinentes.
Alors, les spectateurs peuvent mettre d'autres interprétations en avant. Les tableaux eux-mêmes, ils disent parfois autre chose que ce que l'on voit. Vous arrêté dans votre livre, Loïc Mangin, sur un Jésus qui est mort à 33 dents.
Oui, alors
je vous cite.
Vous me pardonnerez le jeu de mots. C'est la Pietà de Michel-Ange qui est dans la chapelle Sixtine, qui entre parenthèses a été un peu vandalisée il y a quelques années. Donc maintenant, on ne peut plus aller voir soi-même si le Jésus a vraiment 33 dents ou pas, parce qu'elle est protégée par une vitre blindée. Mais il se trouve qu'elle a vraiment 33 dents. Pourquoi ? C'est la question que s'est posée un médecin romain. Et donc d'abord, il s'est rendu compte que c'était pas du tout infondé. C'est une maladie qui existe vraiment. Ça s'appelle le mésiodence. Ça touche entre 0,5 et 1,9% de la population. Donc regardez votre entourage. Si ça se trouve, quelqu'un a une cinquième incisive sur la mâchoire supérieure.
Donc 33 dents.
Voilà. En regardant un peu plus attentivement les œuvres de Michel-Ange, ce médecin s'est rendu compte que le Christ de cette Pietà n'était pas le seul à avoir 33 dents. On trouve des démons dans le Jugement dernier que dans la chapelle Sixtine, on trouve une Cléopâtre qui a 33 dents, on trouve une prophétesse qui a 33 dents aussi. Donc
Michel-Ange a fait, il savait ce qu'il faisait,
voilà,
quand il faisait 33 ans.
D'une part, on sait qu'il était très versé en anatomie, parce qu'il avait des amis médecins avec qui il allait disséquer des cadavres, même si c'était pas forcément très autorisé à l'époque, mais on sait qu'il l'a fait. Donc il est probable qu'il soit tombé au cours de ses multiples autopsies sur des cas de dents surnuméraires. Et ensuite, on peut s'interroger sur pourquoi il a tenu absolument à mettre une dent supplémentaire à beaucoup de ses personnages. Et l'hypothèse de ce médecin romain, c'est de mettre traduire par là l'absence de grâce divine. Puisque cette grâce divine serait traduite par une sorte de symétrie, si on introduit une asymétrie, ça fait tomber en dehors de la grâce divine.
Donc, voilà pourquoi de la Pietà dans la basilique Saint-Pierre a 33 dents.
Les démons, on comprend la grâce divine, voilà. Ils en sont exempts. Cléopâtre, on est avant Jésus-Christ, donc c'est pareil. En revanche, Jésus-Christ, pourquoi il n'a pas la grâce divine ? C'est la question.
Un point d'interrogation.
Voilà, l'hypothèse, c'est que du coup, comme il a accumulé sur lui tous les péchés des hommes sur Terre, ça se traduit par cette dent surnuméraire. Ce qui finalement n'est pas énorme, tous les péchés de la Terre sur une dent.
Ça fait qu'une seule dent ? Oui, ça va encore. Autour de la question, quelle science dans l'art, quelle mathématique ou quelle géométrie plutôt se cache dans ce morceau des Dépêche Mode, Shake the Disease ? On l'écoute et vous nous expliquerez, Loïc Mangin. We'll be right back. Shake the Disease sur RFI. Alors dans le refrain de ce tube de Dépêche Mode que l'on entend, Loïc Mongin, il y a quoi? Il y a des transformations géométriques?
Oui. Alors pour comprendre, il faut remonter au XVIIe siècle et aux mathématiciens.
Pour comprendre Dépêche Mode et Shake the Disease.
Oui. Donc d'accord. Ça, c'est à nouveau un exemple de science cachée dans une œuvre d'art dont les artistes n'avaient pas conscience du tout. Encore que, bon, il faudrait vérifier.
Sait-on jamais.
Voilà.
Donc remontons au XVIIe siècle, voilà, à partir de Dépêche Mode.
Voilà, et donc on retrouvons Léonard Euler, mathématicien célèbre de l'époque, qui s'interroge sur pourquoi la musique procure du plaisir. Et selon lui, le secret réside dans les accords parfaits, dans les relations numériques qu'on peut trouver entre les accords quand on les transforme sous forme de nombres. Et donc pour le coup, pour mieux explorer l'aspect mathématique de la musique, il a créé un outil qui s'appelle le Tonetz. Sans rentrer dans les détails, finalement, il arrive à représenter des transformations d'accords, d'un accord à un autre, sous forme d'une sorte de maillage hexagonal qui permet de passer soit d'un accord mineur à un accord majeur, soit d'accord mineur, soit d'un accord d'une tonalité à la même tonalité. Et dans ce maillage-là, quand on met les accords du refrain de Shake the Disease de Dépêche Mode, on voit que ça respecte un cycle de symétrie parfaitement régulier. Et donc si on rejoint Euler, comme c'est symétrique, comme c'est très régulier, du coup c'est le plaisir est obligatoire.
Le plaisir est obligatoire. Voilà comment faire des tubes en s'inspirant donc de ce mathématicien, des transformations géométriques. Je crois que Bach s'y était mis aussi.
Bach était un des précurseurs aussi, puisqu'il s'amusait à partir d'une petite mélodie de rajouter son symétrique, son inversé, ce genre de choses. Ce que vont faire beaucoup plus systématiquement les musiciens du début du XXe siècle, la musique sérielle et dodécaphonique, Schoenberg, tout ça. Voilà, Bach le faisait déjà bien avant.
D'autres, alors on sait bien que les mathématiciens sont souvent musiciens, que les musiciens sont aussi mathématiciens, mais d'autres artistes sont aussi mathématiciens. Vous arrêtez dans votre livre sur les plissés, alors c'est pas côté peinture, c'est côté couture, haute couture, les plissés d'Issey-Miyake, Loïc Mongin.
Oui, ça c'est aussi une jolie histoire.
Donc, alors nos auditeurs, ce sont des tissus vraiment complètement plissés.
C'était effectivement sa signature à une époque. Bon, pour le coup, pour cette collection-là, c'était pas forcément le cas pour toute sa ligne. Mais voilà, donc lors de ce défilé, ce qui était très intriguant, c'est que, outre tous les journalistes de mode qu'on pouvait trouver au premier rang, on avait aussi deux mathématiciens, et pas n'importe lesquels, deux médaillés Fields, donc la plus haute distinction mathématique. Et donc on pouvait se demander quel lien entre cette collection de... Alors pour le coup, c'était du prêt-à-porter.
Et les mathématiques.
Et le lien, en fait, c'est la conjecture de Poincaré. Une espèce de gros problèmes sur lesquels se sont arrachés les dents les mathématiciens pendant plus d'un siècle, qui a été résolu dans les années 2000, et qui fait intervenir un certain nombre de géométries. Je vais essayer de la faire très courte, parce que sinon ça va nous emmener dans des détails.
Non, assez... vous n'allez pas nous expliquer la conjecture de Poincaré, mais vous allez nous expliquer que Issey-Miyake s'en est inspiré.
Voilà, il s'est inspiré d'un théorème dit de géométrisation, dont la conjecture de Poincaré est un cas particulier, et pour fabriquer ses robes. Il se trouve que c'est ce théorème de géométrisation met en jeu 8 sortes de géométries différentes, qui chacune peut se représenter par une sorte d'entrelac, donc un nœud, et sur la base de ces nœuds, il a élaboré ses robes. C'est vrai qu'on a pu voir défiler au carrousel du Louvre, on y revient, il y a quelques années.
Autour de la question jusqu'où pourrait bien nous entraîner la science dans l'art, je propose un nouvel éclairage, c'est celui de Mathieu Novak du mensuel Science et Avenir.
On sait aujourd'hui programmer des intelligences artificielles à créer des œuvres d'art, soit originales, soit en copiant des modèles. On sait aussi programmer des intelligences artificielles pour évaluer la qualité de ces œuvres d'art. Quel est l'avenir de la place de l'ordinateur, des algorithmes, de l'intelligence artificielle dans la création artistique?
Qui veut, qui peut répondre? Mathias Blanc, peut-être. Quel est l'avenir de l'intelligence artificielle, de ces algorithmes d'apprentissage, de ces œuvres d'art?
Alors par rapport à la création artistique, moi j'observe simplement qu'en termes de réception, il y a beaucoup de variables qui jouent et qui font qu'on ne peut pas dire qu'une œuvre sera forcément appréciée de tout le monde. Donc on voit très bien qu'en fonction de l'âge, du sexe, de la configuration sociale de visite, avec qui vous visitez, au moment où vous visitez, votre formation, vous aurez une perception différente de l'œuvre.
Donc une œuvre conçue par une intelligence artificielle ne plaira pas forcément à tout le monde.
Exactement. Ça, c'est une certitude. Mais, je ne prends pas beaucoup de risques en vous le disant.
Mais est-ce une œuvre d'art ? Est-ce qu'on se dirige vers des algorithmes qui sont capables de produire une œuvre d'art ? Qu'est-ce que vous en dites, vous, qui êtes quand même sociologue de l'art ?
Alors moi, j'utilise ce qu'on appelle du machine learning, effectivement, des algorithmes d'apprentissage pour traiter mes données. Ceci étant, pour moi, c'est uniquement un outil qui me permet de classer l'ensemble des informations dont je dispose en vue ensuite d'effectuer mes analyses. Donc pour moi, c'est un outil parmi d'autres. Si ensuite des artistes souhaitent s'en emparer pour créer, tout dépend de l'intentionnalité, de l'acte, de l'usage, de la finalité qu'on en fait. Je pense que c'est comme un marteau. Un marteau, ça vous sert à planter un clou, et puis ça peut devenir quelque chose de dramatique si vous en servez comme une arme. C'est un outil. Et donc, en fonction de ce que vous en faites...
Il faut peut-être quand même qu'il y ait un artiste qui s'en serve pour que ça produise une œuvre d'art ou pas mais...
Mais c'est tout à fait ouvert et je pense que des artistes ont déjà commencé à le faire. Donc,
Loïc Mangin, vous en pensez quoi ? C'est un fantasme ça de penser que...
Un fantasme, non je crois pas, mais d'abord on pourrait rebondir sur ce que disait Macha Makaïev, quoi, que l'art finalement, le statut d'œuvre d'art se décide pas dans l'œuvre en elle-même finalement, mais dans le regard de du spectateur. Je crois que c'était Duchamp qui disait ça aussi pour le coup. Et là, sans... Marcel Duchamp qui, avec son urinoir... Signé Hermoud disait ceci est une œuvre d'art. Et le public l'a suivi là-dessus. Donc, par exemple, ça a bousculé complètement l'art contemporain. Donc, finalement, on n'a pas besoin de faire appel à des ateliers artificiels
pour
interroger ce que c'est qu'une œuvre d'art. On le fait depuis plus d'un siècle. Même avec les machines et tout ce qui est informatique, sans aller jusqu'à l'intelligence artificielle, des images issues de fractales, qui sont des objets mathématiques beaucoup plus simples,
sont très, très belles.
Voilà, plusieurs sont prêts à dire ceci est une œuvre d'art en voyant des images, des ensembles de Julia, des choses comme ça.
Les fractales, c'est quand il y a la même image qui se retrouve. C'est la vache qui rit, voilà, la mise d'oreille de la vache qui rit, pour le faire
très simple.
C'est
la mise en abîme, quelle que soit l'échelle, on retrouve le même motif. Et donc là, c'est une machine qui a créé le dessin. Il n'y a pas eu besoin d'intelligence artificielle. Et. Certains confèrent à cette image le statut d'œuvre d'art.
Il y a aussi des expositions, il y a eu Robots et Arts au Grand Palais, oui, avec des robots. Donc on peut aller jusque-là aujourd'hui, sans que finalement ça bouleverse tout. C'est-à-dire que c'est ça que vous êtes en train de dire aussi.
C'est un peu mon avis. Si on remonte aux prémices, pour le coup, dans cette exposition, une des premières œuvres était celle faite par un automate conçu par Jean Tinguely. Niveau intelligence artificielle, c'était assez restreint quand même, parce que c'est à peine programmé par deux trois engrenages et 2-3 courroies.
Et pourtant, c'est sacrément impressionnant.
Voilà, et l'œuvre d'art, elle était là au final, parce que les critiques, les historiens de l'art et en dernier recours, le public décide que c'en est une. S'il décide que c'en est pas une et dit mes enfants feront pareil, c'en est pas une, c'est lui qui décide.
Parfois, le bricolage marche mieux que l'intelligence artificielle autour de la question. Jusque nous entraînera la science dans l'art. On continue de s'interroger devant un bien beau tableau, Marcel et son orchestre sur la fille.
Hey!
Juste pour le plaisir, Marcel et son orchestre, carrément les troublions punk du Nord, devant un bien beau tableau. Autour de la question « Quelle science dans l'art ?», page 167 de votre ouvrage, Loïc Mangin. Je ne sais pas si c'est un bien beau tableau, mais l'ADN y fait bonne figure. C'est le titre et c'est le travail assez dérangeant d'une artiste américaine à partir de l'ADN de mégots de cigarettes ou de chewing-gum ramassés sur le trottoir.
Ne jetez plus rien par terre, vous êtes surveillé. C'est un peu son message en fait. Donc effectivement, elle a prélevé des mégots de cigarettes, des chewing-gums. Ensuite, elle s'est rendue dans un laboratoire, dans une sorte de laboratoire biologie, mais ouvert à tous, une sorte de do-it-yourself.
Où on amène son ADN et on fait un portrait robot.
Ce qu'on appelle des biohackers sont là pour vous accueillir et vous aident à faire ce que vous voulez en dehors de toute institution publique ou privée reconnue en tout cas. Et donc à partir de là, elle a analysé l'ADN qu'elle a trouvé dans ses mégots de cigarettes, dans ses chewing-gums, et elle a essayé de reconstituer le visage de ceux qui l'ont jeté. Donc là, on en est au début de la génétique qui explique la formation des visages, mais elle est quand même arrivée à quelque chose d'assez ressemblant.
Enfin, c'est impressionnant, hein, dans l'image illustrée dans ce livre.
En fait, je dis ressemblant, on n'en sait rien. Puisque
on n'en sait rien, mais ça fait des vrais visages humains, avec des caractéristiques particulières, voilà. Tous différents.
Mais surtout, ce sur quoi cet artiste alerte, c'est que ça va être de plus en plus performant, ces techniques de reconstitution à partir d'ADN. On commence à de mieux en mieux comprendre la génétique qui se cache derrière la formation d'un visage, la largeur d'un nez, la largeur des yeux, la hauteur d'un menton. Et donc plus on va aller de l'avant dans la compréhension de ces mécanismes-là, plus qu'elle fait sera réaliste et finalement pourrait être mise en œuvre non pas par des artistes comme elle, mais par des autorités plus ou moins bienveillantes.
Ça fait un peu peur, hein. On jettera plus son mégot de cigarette ou on crachera plus.
Ça, c'est déjà un mieux. Ça, c'est... Au moins les trottoirs vont gagner en propreté.
Ça, c'est vrai, mais c'est quand même assez, on va dire le mot flippant, de se dire qu'il suffit de ramasser comme ça quelque chose que l'on a touché pour pouvoir reconstituer le portrait.
Oui, puisqu'en fait, un cheveu suffira aussi. Hein. Donc,
c'est ça, vous nous rassurez là. Mais du coup, on se rend compte aussi.
Non, je vous alerte.
Voilà. Et que parfois l'art c'est fait pour ça aussi, la science aussi, donc les deux ensemble, de l'intérêt de travailler finalement quand même à la frontière de ces deux disciplines, entre science et art, Mathias Blanc, il se passe des choses, il se dit des choses, il se fait des choses, dans plein de domaines.
Oui, bien entendu, tout à fait. Nous avons besoin à la fois d'identifier, moi dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier cette multiplicité de regards de manière à saisir la richesse des interprétations possibles. Ensuite, on se rend compte qu'effectivement, on a plein de domaines encore à explorer de ce type-là.
Par exemple,
la sculpture. La sculpture, c'est vrai que finalement, que voyez-vous lorsque vous êtes face à une sculpture? Est-ce que vous la saisissez de la même manière? Qu'est-ce qui se passe? On est dans un objet en trois dimensions, ce n'est pas de la peinture, bien entendu. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut trouver des dispositifs qui nous permettent de comprendre finalement ce que le spectateur perçoit face à une sculpture?
Et vous travaillez sur des dispositifs après Iconica, ce sera un dispositif face à une sculpture?
Face à une sculpture, hein, Iconica 3D.
Iconica donc, 3D.
On propose aux gens de nous montrer par le tracé, donc faire de la notation dans l'espace en fait.
Et vous avez noté des différences avec ceux avec qui vous avez essayé, vos cobayes?
Pour l'instant, donc, on est au stade du prototype. Nous avons fait un premier test. À l'époque, c'était en réalité virtuelle. Là, on passe en réalité augmentée. L'intérêt, c'est à chaque fois que le visiteur ne perde pas le contact avec l'œuvre.
Alors on ne peut pas toucher les sculptures, mais on peut les montrer du doigt.
On peut les montrer du doigt. Sur le premier test qu'on avait fait, effectivement, en fonction de la formation, on obtenait des différences flagrantes. Nous, en tant que spécialistes, on s'intéressait avant tout aux postures marquées par la sculpture, alors qu'on avait un athlète de haut niveau parmi nous qui, lui, s'était intéressé avant tout à la musculature. Bon, c'est des choses qui peuvent paraître assez triviales, mais en tout cas, il y a une interrogation. Une interrogation sur ce que l'on voit face à ces objets dans l'espace.
Loïc Mangin, prochaine chronique dans Pour la Science, puisque ce livre, je le rappelle, est tiré des chroniques que vous faites entre art et science. Ce serait quoi votre prochain sujet ou sujet sur lequel vous avez envie de plancher?
Alors, c'est supposé que j'ai déjà décidé, mais si j'ai quand même une piste, puisque dans une dizaine de jours, c'est la nuit blanche.
À Paris, avec
voilà,
ouverture
au CNRS, il sera présent à la Cité des Sciences avec une œuvre qui s'appelle Platonium, je crois, où il est question de lumière et de science de la lumière autour de cette œuvre. Donc, je pense que je vais partir là-dessus.
Bon, là, on sera vraiment, vraiment entre art et science. Et on va vous laisser l'écrire. Merci infiniment d'être venu en direct, Loïc Mangin, partager vos recherches. Ah non, non, Loïc Mangin, c'est pas vos recherches,
non,
c'est votre écriture. Alors, c'est Mathias Blanc. Donc, je vous remercie d'être venu partager
merci
vos recherches sur ce projet, dont je rappelle le nom VisualTech et l'appli Iconic Art. Et puis, Loïc, bah, je vous remercie pour votre ouvrage qui rassemble donc toutes vos chroniques. Et l'ouvrage s'appelle Pollock, Turner, Van Gogh et la science, paru aux éditions Belin.
Merci, merci.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Louis Lafargue en coulisses. Autour de la question, quelles nouvelles de notre préhistoire pour découvrir les plus récentes découvertes sur le continent africain qui nous renvoie à une humanité toujours plus diverse, buissonnante, plurielle et métissée, qu'on se le dise. Merci de votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, un prochain journal dans une minute.